Le laboratoire de l'égalité soutient le podcast L'Esprit des pionnières. Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. En 2001, dans une boîte de nuit sombre de la vieille ville de Sarajevo, en Bosnie, une femme blonde se tient incognito au milieu des clients. Autour d'elle, des membres de la mafia yougoslave et des jeunes filles qui dansent sur des podiums. Celia de la Varenne travaille pour l'ONU. Cette année-là, l'Organisation des Nations Unies lui a confié une mission inédite, pionnière, lutter contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle. Dans cette première partie, elle vous emmène en Afrique du Sud pour vivre l'élection de Nelson Mandela, puis en Bosnie, où elle va affronter la mafia, démanteler des réseaux et détruire les lieux de prostitution, ses combats pour les droits humains dans les coulisses des missions de l'ONU.
Depuis que je suis toute petite, j'ai horreur, mais vraiment horreur de l'injustice, parce que j'avais envie de défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Ben, si je voyais dans la cour de récréation que quelqu'un s'attaquait à quelqu'un de plus faible, je lui foutais mon poing dans la figure, c'est tout. Je me battais. J'avais fondé un groupe, on était trois filles, on s'appelait les Trois Mousquetaires, et vraiment on se bagarrait, on regardait. On regardait à qui on pouvait aller filer un coup s'il s'attaquait à plus faible. C'était comme ça. J'ai fait des études de journalisme. Donc pendant pas mal de temps, je n'ai pas vraiment fait de journalisme parce que j'avais des enfants, j'ai décidé de reprendre ma liberté, si je puis dire, parce que je suis quelqu'un de profondément indépendant et j'ai jamais eu envie ni d'être mariée, ni j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants en revanche, mais c'est tout. Et puis voilà, j'ai décidé de faire un peu plus tard ce que je n'avais pas fait quand j'étais très jeune. J'ai divorcé, j'ai repris un travail. Je suis venue à New York pour couvrir la guerre du Golfe depuis l'ONU. J'étais fascinée par ce ballet des diplomates, parce que l'ONU a quand même en son sein les meilleurs diplomates au monde, en tout cas pour ce qui concerne la France. Et un jour de mai 91, ou je ne sais plus exactement, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ami qui était un des directeurs des ressources humaines et qui m'a dit « Est-ce que tu ne voudrais pas partir sur la mission de l'ONU qui est en train de se monter au Cambodge ?» Je savais même pas que l'ONU pouvait engager des gens comme moi. Je pensais qu'on n'engageait que des fonctionnaires, c'est-à-dire qui faisaient partie de l'ONU. Et il m'a répondu « Non, on n'a pas assez de francophones ». J'ai dit « Oui ». Je pars excité, je vais aller au Cambodge, je vais faire partie d'une mission de l'ONU, c'est un peu comme un rêve d'enfant. C'était la première grosse mission de l'ONU. Il n'y en avait jamais eu une aussi énorme avant. Et donc notre rôle, c'était de diriger le pays de façon évidemment temporaire jusqu'aux élections et d'organiser aussi les élections. Et puis j'arrive et je me retrouve au club Méditerranée, quoi. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça parce que je ne généralise pas, mais je découvrais avec effarement que beaucoup de gens de la mission venaient pour gagner beaucoup d'argent, ne s'intéressaient pas aux gens, aux Cambodgiens, les traitaient mal souvent. Et moi, je regardais ça avec effarement, je me disais, mais c'est pas possible, mais ça n'existe pas. Donc je découvrais les non-fonctionnements d'une mission de l'ONU, j'étais extrêmement déçue. Et en même temps, j'avais découvert des gens qui travaillaient énormément et que j'ai revus sur d'autres missions d'ailleurs et qui sont devenus ma famille. Fin 93, j'apprends qu'il y a une mission électorale qui se prépare en Afrique du Sud. Donc je suis allée voir l'ambassadeur de France de l'époque, Jean-Bernard Mérimée, que j'aimais beaucoup, et je lui ai dit « Jean-Bernard, il faut que je reparte ». Je me suis retrouvée dans l'avion en partance pour Johannesburg. En Afrique du Sud, c'était les premières élections, on va dire bicolores, on devrait dire multicolores, parce qu'il n'y avait pas que les Noirs qui étaient ostracisés et mis de côté, mais tout ce qui était coloré, Indiens, Chinois, enfin bon, il fallait être blanc. Donc notre rôle déjà, c'était d'expliquer à ces gens qui n'avaient jamais voté, ils étaient traités comme des animaux. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, les townships, c'était des espèces de camps. Il y avait une route seulement qui menait à cette township et personne ne pouvait s'en échapper parce que si on s'échappait de cette township sans avoir l'accord d'un blanc, bon, on se faisait tirer dessus. Donc nous, notre rôle, c'était d'expliquer, d'observer aussi les manifestations électorales, faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, leur expliquer qu'ils étaient, qu'ils allaient devenir, qu'ils avaient toujours été des êtres humains. C'était extraordinaire. Le jour des élections, par exemple, il y avait des kilomètres et des kilomètres de gens qui s'étaient levés à 4 heures du matin, le bureau de vote ouvrait à 6 heures. Et j'ai vu arriver une vieille dame dans une brouette, c'était son arrière-petit-fils qui la promenait, elle avait 104 ans. Il est venu vers moi et nous on avait des gilets avec marqué ONU, bien sûr. Et il m'a dit, est-ce que vous pourriez ouvrir le bureau, il était 5 heures du matin, avant pour mon arrière-grand-mère. Et j'ai dit, vous savez, il y a un règlement, je n'ai pas le droit. Et il m'a dit, mais elle peut mourir d'un instant à l'autre, vous savez. Et si elle meurt, eh bien, elle n'aura jamais su ce que c'était de participer à la vie du pays. Alors j'ai regardé les gens qui étaient avec moi et on s'est dit on va ouvrir. Et elle savait pas écrire, donc on avait conçu des bulletins de vote avec les photos des gens. Elle a mis le doigt sur évidemment Madiba, c'est-à-dire Nelson Mandela. Et quand elle est sortie, elle n'avait plus 104 ans. Elle avait moins de difficultés à marcher. C'était extraordinaire de la voir. Elle m'a prise dans ses bras et elle pleurait et elle m'a dit merci. Aujourd'hui, je peux mourir, je suis un être humain. L'ONU, parfois, ça sert aussi à ça. Le soir des élections, on était à Johannesburg, comme on était l'ONU et qu'on avait organisé les élections, on était au premier rang bien sûr, et ce qui m'avait frappé, c'est que je regardais cet homme, Nelson Mandela, qui avait convié son geôlier blanc. Et moi ça m'avait sidéré parce que je me suis dit, cet homme, il est hors du commun. Est-ce que moi, après toutes ces années passées en prison, j'aurais eu cette grandeur d'âme d'appeler à côté de moi mon ancien geôlier, je ne sais pas, mais voilà, on l'avait rencontré à ce moment-là. Je l'ai retrouvé, c'était en 94, en 2000, il était à l'ONU, j'étais dans le couloir et il est passé et je me suis dirigée vers lui et je lui ai dit, vous savez, monsieur Mandela, je suis tellement heureuse de vous voir, en 94, j'étais dans votre pays et j'ai participé aux élections. Il m'a pris la main, il m'a embrassé la main et je lui ai dit « Oh ben je me laverai plus jamais la main !» C'était, je crois que c'est une de mes plus belles missions, vraiment. Je repartais de temps en temps, je reprenais mon travail de journaliste, et puis je repartais. Donc je suis reparti pour la Slavonie orientale, et là, le patron de cette mission, c'était ce général américain, Jean Paul Klein, qui... Alors comment je pourrais dire pour être poli? Bah, y a pas. Il avait des couilles. Voilà. Lui, on lui donnait un mandat à respecter, il en avait rien à faire, il le faisait respecter, coûte que coûte. Il avait été nommé en Bosnie et il voulait que je vienne organiser la commémoration des 5 ans des massacres de Srebrenica. Donc j'ai dit oui, évidemment. Je suis partie. Et pendant un an, j'ai ouvert le bureau de l'ONU et j'ai organisé les commémorations. Et là encore, c'était un travail difficile parce qu'il fallait mettre les femmes bosniaques et les femmes serbes ensemble, les unes s'écharpant avec les autres. Et je me souviens avoir mises les représentants de ces différentes ethnies, si je puis dire, ensemble dans une pièce pendant 7 heures. Et là, je leur ai dit, toi, dis donc, on a tué ton fils devant toi, mais t'as pleuré, non? Donc elle a dit oui, j'avais un interprète, bien sûr, et à la Serbe, la même chose. Et je leur ai dit, toutes les deux, vous avez eu 5 minutes pour quitter vos maisons avec rien. Et finalement, j'étais vachement fière parce que, à la fin, elles sont tombées dans les bras les unes des autres et se sont rendues compte que les guerres, c'était pas elles qui les voulaient, mais les hommes, et qu'elles n'avaient jamais voulu ça. Et je crois que c'est une de mes fiertés aujourd'hui parce qu'elles s'entendent. Et comme c'était quelque chose de difficile, Jacques Paul Klein ne m'a laissé que quelques mois quand je suis rentrée, et il m'a appelé, il m'a dit, voilà, j'ai besoin de toi, il faut que tu reviennes, je voudrais que tu crées un programme de lutte contre la traite des personnes enfin sexuelles. Et je lui ai dit, je sais pas ce que c'est. Donc il m'a dit, voilà, la Bosnie est une zone de transit pour des gamines qui viennent de Moldavie, d'Ukraine, de Roumanie, de Russie parfois. Enfin bon, textuellement, ce qu'il m'a dit, t'es blonde, tu ressembles à une femme, mais t'as des couilles, j'ai besoin de toi. Les trafiquants vont pas se méfier, ils vont dire, ah, la blonde, on va l'avoir facilement, ben ils vont en avoir pour leur argent. Donc je suis partie. C'était la première fois, mais vraiment la première fois, qu'une mission demandait de concevoir et de diriger un programme de lutte contre la traite des êtres humains aux fins sexuelles. Il n'y a jamais eu ça avant, jamais. J'avais envie de le faire, j'avais envie, et puis en plus penser que, et là c'était en 2000, on pouvait acheter et vendre des êtres humains pour les réduire à l'état d'esclaves, c'était mais à l'encontre de tout ce à quoi je crois. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai faite, j'ai demandé à un type qui était sur la mission depuis déjà pas mal de temps, je lui ai dit, est-ce que tu sais au moins à Sarajevo où se trouvent des boîtes, on appelait ça des nightclubs, mais enfin bon, c'était des bordels. J'ai envie d'y aller. Donc, je suis allée, on a fait à peu près 5 ou 6 bordels dans la nuit. Je voulais voir ce que c'était, comment ça se passait. Alors, inutile de vous dire que une femme avec un homme dans ce genre d'endroit, ça provoquait quand même la stupeur. Puis finalement, on m'oubliait au bout de 5 minutes. Mais quand j'entrais, c'était un peu difficile. Ce qui était difficile, c'est pas le regard des trafiquants, ni le regard des clients qui étaient là. Ce qui m'a le plus gêné, c'est le regard des gamines, qui étaient forcées de danser devant les clients autour d'une barre, là. Et je voyais dans leur regard que j'étais une sale bonne femme. Elles devaient penser que je venais là pour m'encanailler, et ça me mettait mal à l'aise. Mais bon, mal à l'aise, oui, mais moi, il fallait que je fasse mon travail, donc on a fait ça pendant la nuit. Donc j'ai pu dire aux flics que je venais d'engager, voilà, il y a à peu près une quinzaine de nightclubs sur Sarajevo, donc il me faut une équipe sur Sarajevo. Ensuite, il y avait 9 régions. Donc j'ai divisé les 250 flics avec qui j'étais par 9. Une équipe dans chaque région. Et puis toutes les nuits, on allait sur, on allait dans les bordels, on emmenait avec nous les jeunes filles, on détruisait les bars, on cassait tout ce qu'il y avait à casser, parce qu'on savait très bien que, vu qu'il n'y avait pas de structure judiciaire ni rien, les trafiquants ne seraient pas amenés en prison. On le savait. Mais vous pouvez imaginer que ils ne m'aimaient pas trop. Alors au début, on y allait, par exemple, je vais dire n'importe quoi, à 2h du matin. On mettait les filles dans des endroits sûrs, parce que là-bas, on travaillait avec l'Office international de migration qui avait des abris pour les victimes. Et puis on s'est aperçu que, en y allant toujours à la même heure, les trafiquants savaient et ils cachaient les jeunes filles. Donc, on a changé nos façons d'être. On arrivait, par exemple, à 1h, on partait. Et puis, quand ils se disaient, ça y est, ils sont partis, on revenait. Et on faisait ça toute la nuit. Mais ça n'a pas été sans danger. Hein. Moi, il y avait les forces spéciales avec moi tout le temps. Moi, j'avais les gardes du corps, en plus. Et comme je suis pas grande, quand ils voyaient les mecs autour de moi, ils se disaient, tiens, la blonde est là. Ils m'avaient appelée la garce blonde. Et on m'a même proposé parfois de m'associer. Il me disait, tu connais tout, toi. On n'a qu'à s'associer ensemble. Ouais, pas vraiment. Mais ça, c'est normal, ça va avec le job. Je veux dire, vous savez, la mafia yougoslave, ce sont pas des tendres. Par exemple, un matin, il faisait beau, et je me suis dit, j'en ai vraiment ras-le-bol. Parce qu'évidemment, quand on rentrait à 8h30 du matin, il fallait quand même dormir un peu. Et je m'en souviens, il faisait un temps magnifique. Et j'ai décidé de ne pas appeler mon chauffeur, de pas dire à quelle heure il pouvait venir me chercher. Et j'ai été me balader dans la vieille ville de Sarajevo, qui est magnifique. Voilà. En 2 secondes, on m'a attaqué. J'ai pas été blessée. On a pris mon sac, on a tout pris. Et j'étais quand même très choquée. Et puis il y a des gens autour de moi qui sont intervenus, mais j'avais heureusement gardé mon téléphone dans ma poche et j'ai appelé mon boss qui m'a envoyé immédiatement une voiture. Et il m'a dit après, écoute, ça devient vraiment dangereux, donc ce serait bien que tu partes. Et je lui ai dit, merde alors non, parce que si je pars, ils auront gagné. Et je suis pas partie, mais ils ont continué, ils venaient chez moi, ils foutaient en l'air toute la maison. Après, j'avais des gens, des policiers devant la maison, mais bon, c'est encore une fois, ça va avec le job. Donc, je peux pas me plaindre, c'est comme ça. Je me souviens quelques nuits avant que je me fasse attaquer, on était arrivé dans un bordel parce que je me faisais vraiment, je participais à chaque raid. Alors, quelquefois c'était à Sarajevo, quelquefois c'était à Mostar, quelquefois c'était à Banja Luka, c'était un peu partout. Parce que je voulais dire à mes hommes que j'étais avec eux. Et il fallait que je leur montre que j'étais là. Et j'étais la seule femme aussi. Et les victimes, je représentais leur mère, enfin, peu importe. Et une nuit, on avait fait irruption dans un nightclub. Et j'étais vraiment furieuse parce que je voyais qu'il y avait la fumée des cigarettes dans les cendriers, les verres qui étaient à moitié pleins ou à moitié vides, peu importe. Et je m'étais dit, il y a quelqu'un parmi les gens avec qui je travaille qui a parlé. Parce qu'on disait plus où on allait. Je prenais tous les téléphones portables de tous les flics. On les mettait dans un endroit, ils les récupéraient au petit matin, parce que j'en avais ras-le-bol qu'ils préviennent. Mais là, c'était quelqu'un, je l'ai appris après, de mon équipe qui avait parlé. Là, ça m'a beaucoup déplu. J'étais furieuse, j'étais frustrée, Il y avait des escaliers, et je me souviens descendre ces escaliers, parce qu'on avait été voir les chambres des jeunes filles, et tout d'un coup, je mettais la main comme ça sur le mur, et je dis au patron des forces spéciales qui était avec moi, je lui dis, touche. Là, c'est pas un mur, là. C'est comme si c'est mou. Et je lui dis, vas-y, défonce. Et il me dit, ben non, je peux pas. Je lui dis, écoute-moi bien, tu défonces ce foutu mur, sinon je te vire. Demain, tu travailles plus avec moi. On défonce ce mur. Il y avait d'autres escaliers qui menaient à une cave. Et tout en bas, il y avait deux petites filles. Elles avaient un bandeau sur la bouche. Elles étaient enchaînées. Elles avaient une écuelle devant elles. Et je voyais que leurs yeux. Et leurs yeux, c'était la terreur dans leurs yeux. Et je crois que c'est pour ça que j'ai jamais, jamais cédé. Sur le coup, on va mal, on se remet parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut le refaire toutes les nuits. Et dans la journée, on voit les victimes, on parle avec elles. Je m'étais jamais rendu compte à quel point ça avait été dur. Bien que mon boss m'ait toujours dit « tu ne dois pas penser à tes enfants quand tu fais ça », eh ben si, parce que moi je pensais à la mère qui attend ses enfants, qui doivent rentrer de l'école et qu'elle ne revoit plus. Et moi je pensais à ma fille et je me disais « mon Dieu, mais comment ?» Ce sont les victimes qui m'ont donné la force.
Vous venez d'écouter la première partie du témoignage de Célia de la Varenne, pionnière de la lutte contre le trafic de jeunes filles en mission pour l'ONU. La semaine prochaine, vivez la suite de son combat en Bosnie et au Liberia. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles, votre avis nous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée.